d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo et Christophe au micro. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Gilles également. Et puis Claude à la technique, comme d'habitude. Nous parlerons ce soir du rapport d'attaque sur les fraudes fiscales, des aides aux prestations sociales, donc des propositions de candidats à la présidentielle. Évidemment, également du chômage et de la précarité, comme d'habitude. Voilà, donc on va commencer cette émission par parler, bien sûr, comme souvent, évidemment, des élections présidentielles. Les candidats ont des propositions à faire sur les aides sociales. Christophe, tu as suivi un peu l'affaire. Qu'en as-tu conclu?
Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur le net, un article de l'Express, qui décrypte assez bien, d'ailleurs, les propositions des cinq candidats majeurs. Il est un peu regrettable que les autres dix petits candidats ne soient pas... mis en avant par rapport à leurs propositions, mais ça brosse, je dirais, un tableau de ce qui peut être envisagé et envisageable, sachant que dans chaque cas, il n'y a pas forcément une évaluation financière très précise, mais on voit là, derrière ces prestations et allocations sociales, des projets de société. Alors, on va commencer par Monsieur François Fillon. Donc, Monsieur François Fillon souhaite une allocation sociale unique qui remplacera en fait le revenu de solidarité active, l'allocation spécifique de solidarité, la prime d'activité, les aides au logement, l'allocation adulte handicapé qui serait augmentée sans précision. Et enfin, la notion d'universalité des allocations familiales, parce qu'il tient énormément à la notion de famille, on sent une tradition judéo-chrétienne. Avec un coût estimé à 800 millions d'euros, enfin, les allocations chômage seraient dégressives. Donc, sans le dire, on peut présupposer qu'il s'agit en fait d'un rabotage global de l'action sociale. Quoi de neuf sur la fiche de paie ? A priori, il y aura un petit abattement forfaitaire de cotisation salariale de 350 euros pour chacun. Côté santé, il y aurait l'abandon de l'aide médicale d'État, l'AME, et la génération du tiers payant. La prise en charge à 100% par la Sécu des lunettes des enfants. Enfin, il estime que le régime social des indépendants, le fameux RSI, qui s'est invité comme sujet majeur à la campagne, serait réformé. Plafond de chiffre d'affaires des micro-entrepreneurs, le nouveau nom des auto-entrepreneurs, augmenterait d'environ 40%. Donc, on est bien dans une logique de flexibilité, de libéralisation de l'économie.
Alors, le RMI sera remplacé par quoi?
Ce serait une allocation sociale unique.
D'accord. Donc, et ça montrerait à combien, la totalité?
C'est pas précisé.
D'accord.
Monsieur Hamon, quant à lui, voudrait faire passer le RSA à 600 euros, le rendre automatique. S'accorder sur donc un revenu universel du même montant pour les 18-25 ans ne travaillant pas, mais aussi gratifier ceux qui perçoivent moins d'1,9 fois le SMIC d'un complément de revenu dégressif. Selon le candidat, un couple au SMIC y gagnerait environ 400 euros par mois. Ensuite viendra une réflexion sur l'instauration d'un vrai revenu universel. Vous savez qu'on a beaucoup critiqué sur ce point pour avoir mis en place en gros un concept, et plus un concept et une usine à gaz que quelque chose de concret. Benoît Hamon, en parallèle, entend doper 10% des minima sociaux, augmenter le SMIC et le point d'indice des fonctionnaires, et mettre en place une assurance chômage pour les indépendants, réformer donc le fameux RSI, et reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Madame Le Pen, quant à elle, sur le plan social, elle promet une prime de 80 euros en moyenne par mois pour les revenus inférieurs à 1500 euros net. Une revalorisation de 20% de l'allocation adulte handicapé. C'est un coût estimé à 1,6 milliard parce que il y a quand même eu des rapports sociaux et des administrations alarmants sur le fait que les gens qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé sont en dessous du seuil de pauvreté.
C'est bon.
Donc c'est une véritable problématique, sachant que leur maladie les conditionne à un ensemble de soins. Et tout n'est pas forcément remboursé, même s'ils peuvent être parfois 100% pris en charge. Il y a le matériel, des choses comme ça, même s'il y a des aides qui existent. C'est une véritable problématique. L'AME serait supprimée et l'université des allocations familiales rétablie, sans plus de précision en ce qui concerne Madame Le Pen. Monsieur Macron, donc lui, il voudrait en fait basculer les cotisations salariales, assurance maladie et chômage, qui disparaîtraient contre une hausse de la contribution sociale généralisée de 1,7 point. À la clé, plus 500 euros par an pour un salaire net mensuel de 2200 euros. Indépendants et fonctionnaires profiteraient également de cette baisse de cotisation, mais il n'y a pas de précision. Il y aurait une hausse de 50% de la prime d'activité, coût estimé de 2 milliards, et de 100 euros pour l'AAH. Donc là, il y a une prise de conscience du bas niveau de l'allocation adulte handicapé. Indépendants et salariés démissionnaires bénéficieraient des droits au chômage. Le régime social des indépendants serait adossé au régime général, sans éliminer les différences de taux de cotisation. Donc ça peut quand même poser un certain nombre de questions. Et enfin, pour les micro-entrepreneurs, les plafonds de chiffre d'affaires doubleraient. Donc là, on est dans une logique libérale de la personne et sa force de travail. Exit les charges de la première année. Le jour de carence pour les indemnités d'assurance maladie des fonctionnaires serait rétabli. Bah oui, les fonctionnaires sont tous des profiteurs. Quant à monsieur Mélenchon, la France insoumise a annoncé toute une série de hausses, plus 16% pour le SMIC, qui s'élèverait à 1326 euros net par mois. Plus 6,7% pour le point d'indice des fonctionnaires et un passage au-dessus des 1 000 euros pour les minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé et le RSA. Ce dernier deviendrait automatique et s'ouvrirait aux jeunes. Le coût est estimé pour les minima sociaux à 30 milliards d'euros. Avec quel financement? On peut se poser la question. Le candidat prône une intégration des mutuelles à la sécurité sociale et un remboursement à 100% des frais médicaux. Donc toute une partie de la captation de l'argent pour financer la santé au niveau du privé serait renationalisée, si on peut dire. Il compte proposer aux indépendants qui le souhaiteraient de rejoindre le régime général pour leur protection sociale. On peut penser que ça serait une harmonisation par le haut. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ces 30 milliards, comment ça va être financé?
C'est pas précisé. C'est les propositions.
Ça serait. En fait, il va creuser le déficit. Enfin, il va désobéir au pacte de stabilité européen.
Oui, bien sûr. Les 3%.
Si on écoute son programme. Avant Jacques Généreux, son ministre de l'économie, et donc contraindre l'Allemagne à renégocier les traités. D'accord. Et une relance, une politique qui ne soit pas austéritaire, en quelque sorte. Après, on peut imaginer qu'il y aura réellement une part de création monétaire, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse financer son programme sans ça, sachant que dans le programme de Mélenchon, les économistes qui sont proches de lui partent du principe que c'est la baisse des salaires, en réalité, européenne, au niveau européen, qui provoque une crise de la demande et qui provoque cette stagnation. Et une baisse de salaire, en fait, sur les 20 ans, en termes de salaire réel, et non pas des petites poussées progressives. Donc une contraction de la demande, qui est entre autres aussi le résultat de la crise de 2000, des politiques austéritaires mises en place pour répondre à la crise de l'euro, qui empêche toute relance économique.
D'accord, mais ça va dans le bon sens a priori alors pour le coup.
Ça va dans le bon sens si effectivement ils réussissent leur bras de fer contre l'Allemagne.
Alors une petite analyse très pratico-pratique de la rédaction de l'Express. Donc on en est sur la notion de baisse de cotisation, de complément de revenus, d'hausse du SMIC et de la prime d'activité. Alors, en tout cas, les candidats semblent tous avoir pour priorité de doper les revenus tirés du travail, c'est ce qu'on peut en tirer comme premier élément d'analyse, qui ferait gagner le plus. Donc les salariés au SMIC trouveront leur bonheur dans les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon, manifestement. Plus dans une moindre mesure ceux d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Si vos revenus sont légèrement supérieurs au SMIC, les propositions socialistes et frontistes semblent les plus avantageuses. Et pour les salaires moyens et élevés, celle d'Emmanuel Macron l'emporte devant celle de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà.
Très bien, merci Christophe. On peut peut-être écouter une petite chanson. Non, oui, on va peut-être écouter une petite chanson. On reprend la parole par la suite. Merci.
Thank you.
Eh oui, c'était un mauvais garçon. Il s'appelait Fillon. Voilà. On reprend cette émission. On reprend cette émission. C'est Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission des chômeurs et précaires. Je suis toujours, heureusement, avec Claude, Ludo et Christophe au micro. Et on va reprendre sur, effectivement...
Claude, très content de son méfait musical.
Absolument. On va reprendre avec, effectivement, ces cadeaux que nous avons fait, enfin, que les financiers ont fait aux entreprises, que l'État a fait aux entreprises, etc. Le CICE, hein, 40 milliards d'aides aux entreprises. Et il y a donc un rapport d'attaque qui s'appelle « Rendez-vous l'argent » avec une des associations qui s'appellent « Vos droits contre vos privilèges ». Donc là, c'est une question de défiscalisation. Donc effectivement, il serait intéressant que les gens qui ont bénéficié d'argent d'État et qui sont des privés rendent effectivement cet argent. Ludo, tu as suivi un peu l'affaire. Qu'en dit-on ?
Alors, donc effectivement, c'est l'association ATTAC qui... Alors, il faut dire hein, que concomitance et la concomitance des choses qui fait que le rapport est sorti au même moment que l'étude d'Oxfam qui parlait des bénéfices des banques, des grandes banques... anglaise, française,
dont on avait parlé
la semaine dernière, réalisée principalement dans les paradis fiscaux, oui. Donc y compris donc la Société Générale par exemple ou BNP. Et donc du coup, c'est un rapport qui fait en fait la synthèse de tout ce qui, de tout le gaspillage d'argent qui a lieu depuis 30 ans et qui effectivement provoque, encourage la dette en fait. Hein, parce que, voilà, on est à peu près à 80 milliards de dettes. Donc, les propositions, en fait, sont assez simples. C'est que, d'abord, il y a la fraude fiscale. Donc, ATTAC. Et je précise que dans le collectif, il y a le syndicat unifié des impôts. Donc, il connaît bien un peu, hein, c'est un peu son quotidien, la défiscalisation. Donc, la lutte contre la fraude fiscale qui provoque un manque à gagner de 60 à 80 milliards. Alors, 60 à 80 milliards, ça comprend à la fois, pour être juste, hein, c'est-à-dire là, le fait de dissimuler hein, son patrimoine, de sous-évaluer son patrimoine, la fraude directe en fait à l'impôt
et de le mettre dans les paradis fiscaux
ceux qui mettent leur argent dans les paradis fiscaux sont essentiellement en fait les entreprises et les banques, oui. On a dit. Voilà, donc effectivement des particuliers peuvent se servir des banques, c'est ce qui s'est passé hein. Dans le cas d'HSBC, les banques démarchent des particuliers riches pour récupérer leur argent et aller le placer je sais pas où, donc les particuliers peuvent être effectivement concernés. Non, là il s'agit de fraude directe, donc effectivement la fraude la plus importante c'est toujours la fraude à la TVA, donc qui est principalement le fait des entreprises, la sous-estimation de la valeur de son patrimoine, le paiement de sommes liquides non déclarées, donc le travail au noir hein, en quelque sorte. Voilà, donc 60 à 80 milliards d'euros, en comparaison du déficit public annuel, c'est 76 milliards d'euros en 2016, hein, le déficit annuel. Donc l'administration fiscale, dans le cas à l'échelle internationale, comme tu le disais, l'administration fiscale doit au quotidien identifier les sociétés écrans, comprendre les montages sophistiqués, repérer les manipulations de prix et qui sont les fraudeurs. Donc les deux tiers de ces délinquants en col blanc sont des entreprises et l'autre tiers sont des particuliers. Donc voilà. Donc ça c'est et c'est organisé évidemment à un niveau international par les paradis fiscaux ou par le dumping fiscal en fait ou la concurrence fiscale que font les États entre eux.
Excuse-moi parce que moi j'avais entendu parler. Enfin, j'avais juste avant cette émission, on avait pu regarder un document. La fraude fiscale, c'est quoi? C'est 160 milliards, 200 milliards?
Ah ben là, je viens de dire, c'est 60 à 80 milliards.
Non, voilà, non, parce que je pensais qu'il y avait eu d'autres chiffres. C'est
y
pour
compris
ça que...
la TVA. Mais alors non, parce qu'il y a aussi la défiscalisation.
Ah oui,
qui n'est pas la même, n'est pas la même chose.
C'est la différence.
Alors, il y a un exemple quand même concret qu'ici, on tient à ignorer parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des sportifs qui écoutent notre émission. Oui. Donc, il faut savoir que, par exemple, l'UEFA, donc la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe qui s'est passée en France, et ben, elle a été exemptée. Les bénéfices ont été exemptés en quelque sorte. Hein. Donc, c'est-à-dire que elle n'a payé aucun impôt. L'UEFA n'a payé aucun impôt en 2016 en France, sachant que, et bien entendu, la puissance publique, elle, a investi dans les infrastructures pour un coût de 2 milliards d'euros.
Ah oui, bah voyons, quand même.
900 millions d'euros de bénéfices.
Et l'UEFA est pauvre.
Hein. Exonéré. Et l'UEFA est bien sûr pauvre. Hein. On le sait bien ici. Mais c'est un exemple hein, pour les Jeux Olympiques à venir, de ce qui peut se produire, de ce qui pourrait se produire, et globalement pour toutes les compétitions internationales. Alors, pour récupérer ces milliards qui échappent à l'impôt, le collectif propose évidemment d'obliger les multinationales à rendre des comptes sur leur activité et filiales dans chaque pays de l'Union européenne, hein, puisque c'est ça qui fait qu'aujourd'hui une multinationale peut avoir son siège par exemple en Irlande et ne pas payer d'impôts en France, sachant que le taux voilà. Et donc d'une façon ou d'une autre, au niveau européen, d'arriver à harmoniser fiscalement ce que payent les entreprises, ce qui fait qu'elles peuvent plus aller, l'Union européenne étant la première puissance économique mondiale, et si avant les États-Unis, eh bien elle ne peut plus aller nulle part en quelque sorte. Sanctionner ceux qui pratiquent un shopping fiscal, et donc en premier lieu les banques françaises et européennes, puisque, comme on l'a dit, le shopping fiscal, ça consiste à aller placer une partie de ses activités dans les paradis fiscaux et de réaliser ses bénéfices, puisqu'on n'est pas imposé.
On nous aurait menti.
Les entreprises le font aussi. Pardon ?
On nous aurait menti un petit peu ?
Non, mais ça dure quand même. Ça finit par se voir, en tout cas. On nous a menti, mais ça finit par se voir. Donc, comme je le disais, la Société Générale est en 6e position, la BNP est en 4e position, et la première étant la Britannique HSBC, 57% des bénéfices au sein des paradis fiscaux. Ah, c'est dire, hein, quand même.
Ce qu'on a vu.
Voilà. Alors, au passage, les auteurs de Rendez l'argent parlent bien d'un statut du lanceur d'alerte, hein, qui est refusé par la France, pas au hasard, qui a des grandes banques, qui sont harcelées et bannies de leur métier. Alors, il y a des, vous vous souvenez peut-être de Stéphanie Gibaud, ancienne comptable d'USB France, qui a été harcelée et qui est bannie de son milieu, et pour certains qui ont été condamnés à des peines de prison ou à des amendes par leur employeur, comme Monsieur Antoine Deltour ou Raphaël Allette, les anciens employés du cabinet du conseil luxembourgeois Price Waterhouse Cooper, qui est la source du scandale Leclix. Enfin, il y a aussi, il faut quand même rappeler qu'en 2015, les redressements et les régularisations fiscales ont rapporté 2,7 milliards d'euros.
Pour dire, pas rien.
Ce qui n'est pas rien. Voilà. Du coup, il y a juste un problème, c'est qu'à force de supprimer des emplois aux impôts dans la fonction publique en France, mais y compris dans tous les autres pays européens, les services fiscaux, eux, sont
déficitaires, pour le coup. Enfin,
déficitaires d'agents, et en fait, c'est une façon d'organiser la défiscalisation. C'est un peu le cas grec qui a une administration fiscale qui est très défaillante, notamment au niveau de la TVA, qui produit à la fin cette espèce de trou d'air, en fait, de rentrée d'argent, et donc qui creuse la dette, bien entendu. Alors, les suppressions de postes se font au nom de la rigueur budgétaire, et donc, ce qui implique forcément un maintien d'un haut niveau de la fraude fiscale. Et fait dire un choix économiquement et socialement et budgétairement totalement contre-productif, qui écrit Solidaire Finances Publiques. Voilà, donc là, à ce moment de l'exposé, je suis obligé de dire que seuls deux candidats proposent une lutte contre l'évasion fiscale dans leur programme. C'est évidemment Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, de façon un peu différente, mais
bon, d'autres petits candidats peuvent aussi peut-être le proposer.
Certes, alors bon, c'est possible, j'en ai pas entendu beaucoup, mais bon, voilà. En tout cas, disons que les propositions de Mélenchon et de Benoît Hamon sont les plus abouties, et Marine Le Pen, elle, ne fait que l'évoquer. Bien entendu, les deux candidats, Emmanuel Macron et François Fillon, avec leur baisse de fonctionnaires, il y a quand même de grandes chances que ça finisse dans... comment dire, que ça touche encore les impôts, quoi.
Excuse-moi, je t'interromps, Ludo, je crois qu'il y a quelqu'un au bout du... on a quelqu'un au téléphone. Allô? Non? Ah bon, je croyais. Excuse-moi. Bon, toi pour moi.
Ah, quelqu'un qui réagit.
Je croyais que c'était...
Réagit, ouais. Okay. Dire, vous dites que n'importe non. quoi.
Voilà.
C'est bon pour l'économie. Je ne pas taxer. Alors, je reviens sur une proposition qui... Donc là, on a quand même identifié les deux gros pour les deux gros comment dire
les gros problèmes mécanismes
qui font. Voilà. Ouais.
Mais il y a également les niches fiscales, si mes souvenirs sont bons.
Alors, mais justement, alors voilà, la niche fiscale. Alors, ça a été les niches fiscales ont été quand même pas mal réformées, il faut le dire, quand même par honnêteté. Mais il en reste quand même 451.
Oh la vache.
Excusez-moi, ça représente 10 à 15 milliards d'euros. Hein. Un manque à gagner de 89,9 milliards d'euros pour les finances publiques. C'est énorme. Et certaines d'entre elles coûtent très cher. Alors celles qui permettent des réductions d'impôts sur certaines conditions en cas d'achat, par exemple, d'un bien immobilier. Donc il faut se souvenir que c'est une politique qui a été menée depuis les années 2000. Ouais. Bon, à l'égal un peu des États-Unis, un petit peu comme les États-Unis, un peu plus contrôlé.
On va avoir le dispositif Pinel, les lois de Robien, des choses comme ça.
Exactement, et qui aboutit évidemment à la bulle immobilière en France immobilière, qu'on connaît. Hein. Voilà, donc ça pèse 1,5 milliard. C'est beaucoup, hein, d'euros. Le crédit impôt recherche accordé aux entreprises, on en a beaucoup parlé, 5 milliards d'euros.
Ah oui, quand
sans
même.
Aucun justificatif, hein, de recherche, justement, puisque c'est plutôt des niches, voilà, c'est plutôt des trucs à défiscaliser, hein, c'est des cadeaux aux entreprises. Et évidemment, son efficacité n'a pas été démontrée et il le sacrifie, bien entendu, à la recherche publique. Donc le rapport propose de revoir l'ensemble de ces niches et d'étudier leur efficacité au regard de leurs coûts. Une telle revue permettrait de définir celles qui doivent être supprimées ou réformées et de dégager les ressources, également de procéder à une réforme fiscale de fond. Alors évidemment, il s'agirait de renforcer la progressivité de l'impôt pour que les ménages très aisés y contribuent davantage. Donc par exemple, Jean-Luc Mélenchon proposait de mettre 14 tranches différentes d'impôts au lieu des 5 qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que ça permet de façon beaucoup plus fine de ramasser en fait l'argent en fonction effectivement de la fortune, hein. Au lieu de taper en résumé, hein, sur la classe moyenne, hein, d'exonérer les tranches supérieures et de prendre sur la classe moyenne. Donc rééquilibrer l'imposition entre PME qui payent pleinement l'impôt sur les sociétés et les grands groupes qui délocalisent leurs bénéfices grâce à leurs filiales, on l'a dit tout à l'heure. Ça permettrait de dégager un montant similaire de 10 à 20 milliards pour ces deux mesures. Enfin, un impôt qui est très symbolique, c'est-à-dire de l'allègement des charges, donc qui est une politique, hein, depuis 15 ans. Il s'agit bien sûr du CICE,
et
qui
oui.
coûte 40 milliards c'est par ça. An. Mmh. Alors là... le rapport ne parle pas tout seul puisqu'il existe un rapport de France Stratégie. France Stratégie, c'est l'ancien commissariat au plan qui est à côté du Premier ministre, détaché auprès du Premier ministre, et qui a publié lui son rapport et qui dénonce en fait, enfin qui dénonce à travers des termes vraiment très diplomatiques, l'inefficacité pour le moment de ces baisses de charges, sachant que, donc on l'a dit, hein, c'est 40 milliards d'euros par an. Donc, et ça n'a pas beaucoup contribué à créer ou à sauvegarder d'emploi, au mieux 100 000 emplois, soit une subvention indirecte de 400 000 euros par emploi.
C'est aberrant.
Voilà. Alors, 40 milliards, c'est l'équivalent de 600 000 emplois au salaire moyen. Salaire moyen, c'est-à-dire un salarié payé 2200 euros net. Cotisations salariées, les patronales comprises. À la place du CICE, les entreprises pourraient bénéficier d'aides directes et de crédits fléchés en échange de la création d'emplois utiles, et en particulier dans le secteur de la transition
énergétique.
Il reste deux mesures dont
on va peut-être quand même parler.
Parce que la fameuse taxe sur les transactions financières. Donc,
ah, c'est ça qui m'intéresse.
La fameuse taxe Tobin.
Il faut la mettre en place.
En fait, j'ai gardé les propositions qui t'intéressaient pour la fin.
Ah, c'est gentil.
Il faut la mettre en place, mais elle est déjà en place.
Oui, enfin oui.
Tu ne le sais pas.
Si, je sais. Excuse-moi.
Non, mais personne ne le sait réellement qu'en réalité, à force de lobbying, on a mis en place effectivement une transaction financière en France ou en Angleterre pour lutter un tout petit peu contre la spéculation financière. Donc, pour donner une idée, donc par exemple la taxe financière, elle s'applique aux échanges d'actions des sociétés cotées en bourse.
C'est ça.
Donc, elle a été renforcée fin 2007.
Mais elle n'est pas européenne, c'est juste.
Alors justement,
pays.
Elle est au niveau national, elle est de 0,3%.
Oui.
Cette taxe réajustée prend davantage en compte les échanges spéculatifs quand les achats et les ventes d'actions se déroulent sur une même journée, ce qui est logique. Elle est prévue d'être renforcée en 2018, mais ça dépendra des nouvelles majorités. Alors voilà, le problème, c'est qu'au niveau européen, elle est en discussion entre 10 pays, mais les négociations sont bien entendu au niveau européen sans cesse repoussées. À noter qu'en Angleterre, elle a été mise à 0,5%. Vous voyez, donc la France, qui a des grandes banques, a tendance un peu traîner des pieds. Donc la proposition de rendre l'argent, c'est de mettre une taxe de 0,1 sur toutes les transactions financières et de 0,01 sur certains produits dérivés, c'est pas grand-chose, hein, qui servent à spéculer sur la valeur d'une matière première ou d'un bien immobilier. Puisque ça, on a parlé de la bulle immobilière tout à l'heure. Les recettes d'une telle taxe sont estimées à 36 milliards d'euros à l'échelle européenne et de 10,8 milliards d'euros par an pour la France. Voilà, si cette taxe était étendue à l'ensemble des produits dérivés, plusieurs centaines de milliards d'euros échangés chaque année, elle pourrait rapporter jusqu'à 36 milliards d'euros par an, rien qu'en France. Voilà, alors après, il y a la mise en œuvre technique et ça, c'est compliqué. Donc évidemment, au niveau des candidats à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est plutôt pour, hein, instaurer une taxe réelle sur les transactions financières. Benoît Hamon, lui, veut carrément créer un parlement de la zone euro qui serait capable de décider de l'impôt. C'est la grande proposition de Thomas Piketty.
L'unification des impôts.
Et puis, il y a des gens qui sont pas pour. Et parmi les gens, un certain François Fillon.
Macron, le
Patillon. Donc, le FN ne l'évoque pas non plus. Hein. Mmh. Mais Fillon s'était opposé en tant que député. s'est prononcé contre le renforcement de la taxe financière.
De notre patrimoine.
Et l'ensemble des parlementaires LR et EDUI avaient voté, bien entendu, contre. Voilà. Donc, bon, ça donne un peu une idée. Et alors, dernière proposition qui va aussi te plaire, il s'agit de supprimer les aides aux énergies fossiles.
Ah, c'est bien ça.
Qui dégagerait un montant de 10 milliards, puisqu'en fait, c'est vrai que les rapports du, les auteurs du rapport sont sceptiques quand on parle de transition écologique. Ils ont du mal à comprendre pourquoi.
C'est pour avantager les énergies renouvelables ou c'est ça n'a rien à voir? Le fait de, non, l'argent qui serait récolté.
Ah oui, coup, non, bien entendu. Dans l'idée des auteurs du rapport, bien entendu.
Oui, d'accord.
Mais justement, c'est là qu'il y a le bas blesse, c'est qu'on parle de transition écologique, mais qu'on maintient tout ce qui est allègement subventionné. Donc, juste pour donner une idée, ces subventions à la consommation d'hydrocarbures coûtent 3,4 milliards d'euros, par an. Voilà, il faut aussi compter de l'abattement fiscal sur le prix du diesel à la pompe. C'est le plus polluant, celui qui nous, dont les particules nous provoquent des cancers, soit 5 à 6 milliards d'essence. Il y a juste un souci, c'est quand même que ces TVA, enfin ces allègements subventionnés, sont ou pour des professions qui sont un peu sinistrées, donc par exemple, il peut y avoir les marins-pêcheurs, par exemple, mais aussi pour les territoires d'outre-mer qui ont un besoin de subventions du fait de la prix chère, donc notamment la Corse, la Guyane,
hein, on c'est plus. Pour le coup.
Voilà. Et du coup, la vraie question, en fait, c'est quand même de pouvoir compenser ces aides pour ces territoires-là ou pour ces professions-là. Voilà. Donc ça, bon. Mais pour la transition énergétique, c'est quand même une démarche qu'il faudrait faire. Donc, pour conclure, au total, ce sont donc 130 à 200 milliards de recettes fiscales qui sont potentiellement récupérables au service d'une fiscalité plus juste et d'une meilleure répartition des richesses sans alourdir les impôts et les taxes acquittées par les classes populaires et moyennes, ni mettre au chômage des dizaines de milliers de fonctionnaires. Reste à observer quels sont les candidats les plus favorables à ces justices fiscales. Je rappelle que les grandes propositions de Macron, par exemple, c'est-à-dire d'étendre la protection sociale à tous les salariés, de sortir l'assurance chômage du seul des seules entreprises, ils comptent financer tout ça par la CSG et qu'à la fin ça se traduit par des augmentations d'impôts pour nous tous.
Mais ce sont de belles propositions parce que retrouver 200 milliards pour les caisses de l'État, mais ça a l'air d'être une machine à gaz parce que c'est quand même apparemment difficile à mettre en place. Parce qu'apparemment, ça fait 30 ans que rien n'est fait depuis.
Non, mais le problème reste malgré tout, un, la volonté politique, quand même, de nos dirigeants, et deux, l'Europe.
Toujours.
C'est-à-dire la capacité à se mettre d'accord à 10, à 6, à 7, pour une fiscalité commune et une réelle volonté de lutte contre les paradis fiscaux. Donc on n'y est pas, et donc la question européenne, de toute façon, se pose. Et certains candidats la posent. Donc, en l'occurrence, plutôt des candidats de gauche, on va dire.
Oui. Il faudra en prendre le chemin, en tout cas, ce serait intéressant. Alors, on va écouter une petite chanson et ensuite, on reprend la parole. Merci. Et oui, c'était Cabrel qui chantait une chanson donc de Bob Dylan. C'est une reprise de Bob Dylan, évidemment traduite par Cabrel. Très belle chanson d'ailleurs, a priori. Voilà. Donc, on va reprendre cette émission. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Je suis toujours avec mes super journalistes Christophe et Ludo au micro. Et
bonsoir.
Et Claude à la technique, comme d'habitude. On va reprendre cette émission pour parler bien de, on venait de parler de l'Europe avec les problèmes de fraude fiscale et puis la difficulté de mettre en place une taxe Tobin sur l'ensemble des pays européens. Mais on va rester dans l'Europe en parlant du chômage, chômage au niveau européen. Où en est-on, Christophe?
Alors, c'est effectivement un article assez intéressant, qui a été publié sur le site de Helsing. En gros, qu'est-ce qui est dit? Si dans la zone euro, d'après les statistiques officielles, on peut atteindre son plus bas niveau depuis 7 ans, le chômage, avec un taux général de 9,5%, il s'avère que le taux d'inactivité touche durement certains pays. C'est-à-dire qu'il y a de grandes disparités qui demeurent. On peut savoir, notamment, parmi ces disparités, il y a les pays du Sud comme le montre la carte qui est fournie à l'article, hein, puisque la France a 10% de chômage global, 23,6% de chômage chez les jeunes. C'est pas pour autant que c'est un bon élève. Hein. Il faut savoir que le taux de chômage des moins de 25 ans, par exemple, en Grèce, tu sais, il est combien?
Trentaine de pourcents?
45,5.
Ah oui, énorme. Ah oui.
L'Espagne, c'est 41,5%. Mais ça a des conséquences sociétales. C'est-à-dire que la notion de tanguy en Espagne, elle n'existe pas. Parce qu'avec un tel taux de chômage et des salaires aussi bas, les jeunes de moins de 25 ans sont obligés de rester chez papa-maman. C'est pareil aussi en Italie, il y a 35,2%. Ah oui. Donc c'est considérable. Il faut savoir que effectivement, on est loin du soi-disant bon élève, hein, l'Allemagne avec 3,9% ou du Royaume-Uni avec 4,6%. Seulement, il faut noter une chose, parce que qu'est-ce qu'on entend par emploi durable et pérenne, c'est que dans des pays où il y a que moins de 5% de chômage, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, il faut savoir que ces deux pays-là, hein, qui sont pourtant des moteurs économiques de l'Europe, ont bien plus de quoi, ben, de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que si en gros...
des petits contrats, on appelle.
Voilà, en trop, vivre avec moins de 800 euros par mois. En France, on en est à 13,6% par rapport à ça, hein, et de 16,17%, près de 17% pour les deux premiers pays cités, à savoir l'Allemagne et l'Angleterre, ce qui n'est pas rien. Hein. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle une des thématiques, évidemment, le chômage, hein, on n'invente rien, de la campagne présidentielle. Voilà.
Merci, Christophe. Donc, on va parler maintenant, évidemment, toujours un petit peu d'Europe, parce que c'est un peu les frontaliers. Hein. Le comité de défense dénonce une modification du paiement des allocs, hein, chômage. Donc, qu'en est-il exactement, Ludo, toi qui as suivi un peu l'affaire de près?
Écoute, en fait, il se trouve qu'il y a un certain nombre de frontaliers, notamment dans l'Est de la France, qui travaillent à la fois pour la Suisse ou pour l'Allemagne, qui sont pas forcément, qui viennent travailler en Allemagne parce que leur région d'origine est un peu déshéritée. C'est le cas, par exemple, des frontaliers du secteur de Sarreguemines. Et il se trouve qu'en fait, travailler en Allemagne peut avoir un certain nombre d'avantages, hein, c'est-à-dire que les salaires allemands sont effectivement plus élevés. Et un accord bilatéral jusqu'à maintenant permettait qu'il bénéficie des allocations chômage françaises, à Pôle emploi, en fait jusqu'à la retraite. Alors le problème, c'est que effectivement, l'État... en fait, puisqu'il travaille en Allemagne, il cotise en Allemagne, il ne cotise pas en France.
Donc il y a une perte pour l'État français. Alors.
Exactement. D'accord. Et donc, ce sujet a été abordé dans la dernière convention UNEDIC, mais sous la pression d'une directive européenne qui va harmoniser cette petite injustice, hein, entre guillemets, pour l'État français. Sauf qu'il existe déjà un accord bilatéral qui permettait aux travailleurs de bénéficier. Et pour quelle raison? C'est que le régime d'indemnité n'est pas le même, et surtout le régime de départ à la retraite n'est pas non plus le même en Allemagne et en France. Alors le souci, hein, c'est qu'en Allemagne il y a un maximum. En France, on peut, quand on a passé les 50 ans, enfin avant la nouvelle convention qui n'est pas encore mise en œuvre, quand on a passé les 50 ans, on pouvait bénéficier de 3 ans d'indemnisation, ce qui permettait dans certains cas d'attendre la retraite. Or, c'est pas le même. C'est en Allemagne, c'est 18 mois. Donc, la Commission européenne souhaite que l'État membre ou le frontalier à travailler les 12 derniers mois se charge du paiement. Hein, donc, c'est juste les 12 derniers mois. Mais du coup, effectivement, pour les travailleurs seniors, ça pose un effet pervers, un problème, hein, qui est effectivement un effet pervers. Donc, le montant des indemnisations est plus intéressant en France. Ça, c'est sûr. On le sait qu'il n'y a pas de plafond en France en termes d'indemnisation et qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus strict. Et notamment en fin de carrière, bien sûr. Et puis, le demandeur d'emploi peut être indemnisé durant 3 ans seulement, contre 18 mois dans le pays voisin. L'âge de la retraite donc n'est pas le même non plus. 62 ans en France, 65 et 67 ans
en Allemagne.
Exact. Sous certaines conditions, les frontaliers au chômage peuvent bénéficier du maintien de leurs droits jusqu'à ce que la retraite allemande leur soit versée à taux plein. C'est un peu le problème. Alors évidemment, on pourrait supposer qu'il y a des gens qui travaillent sur deux tableaux.
Oui, voilà.
Mais en même temps, quand vous êtes au chômage à 50 ans ou à 60 ans ou à 62 ans,
c'est pas la même chose.
Vous devez attendre, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Alors, cette proposition pour le comité entraînerait des inégalités en France. Elle augmenterait les pertes de temps et d'argent en contraignant à s'inscrire à l'agence pour l'emploi allemande et à suivre des entretiens et des formations en Allemagne. Le gars qui habite Beach, par exemple, ça ne s'invente pas, devrait faire 70 km pour se rendre à Sarrebruck, s'inscrire et discuter avec des techniciens dont il ne maîtrise ni la langue ni l'écrit, dit Arsène Schmitt. Donc l'association dénonce un frein à l'emploi frontalier, la liberté de circulation, alors qu'une coopération existait déjà entre Pôle emploi et l'Agentur für Arbeit.
Un bel accent, en tout cas. Hein.
Merci. Voilà. Alors, le comité ne remet pas tout en cause. Hein. Il estime qu'il est parfaitement admissible et logique que les États membres payent une cotisation à ceux qui versent les prestations. Et aussi, il propose qu'un accord bilatéral soit conclu, au moins entre la France et l'Allemagne. Voilà, donc le dossier est en cours. Il a l'air bien engagé, mais on voit tous les problèmes que pose l'harmonisation européenne à travers ce cas.
Merci, Ludo. Le revenu de base, Christophe, la fusion entre le RSA et la prime d'activité, ça donne quoi exactement?
Alors, il y a un petit article assez intéressant qui a été posté ces derniers jours. C'est un que j'ai trouvé dans un article de Sud-Ouest. Hein. Et en fait, c'est le Conseil d'analyse économique qui propose de fusionner le RSA et la prime d'activité dans un revenu de base unique sous condition de ressources. Alors, fondamentalement, c'est un peu un mécanisme pour pousser les gens à travailler, mais ce qui pose problème, c'est quel type d'emploi on accepte. Est-ce que c'est 2 heures par semaine? Est-ce que c'est des mi-temps? Enfin, voilà, ça pose quand même un problème. Hein. Donc, le fameux conseil d'analyse économique que mardi dernier a publié une note pour mieux lutter contre la pauvreté afin de fusionner le RSA et la prime d'activité dans un revenu de base unique, oui, sous condition de ressources, donc en fonction de ce qu'on déclare, auquel seraient ensuite rattachées plusieurs autres aides sociales. Alors, il faut savoir que cet organisme est placé auprès de Matignon et que ce revenu social unique serait en fait associé à toujours à une idée de participation à un programme d'insertion pour les personnes sans emploi. Donc après, le RSA, les primes d'activité, ce revenu de base intégrait progressivement l'allocation spécifique de solidarité. On est vraiment dans une idée de fusion des différents minima et prestations sociales. Des majorations spécifiques pourraient remplacer les allocations logement pour personnes âgées, l'ASPA et pour adultes handicapés. L'idée, ça serait par la suite du fait que le revenu universel fait débat aujourd'hui dans la campagne présidentielle et dans notre société, qu'on s'interroge sur un revenu de base accessible aux 18-24 ans, qui ne vit pas avec leurs parents, mais qui serait pas rattaché fiscalement et qui ne sont pas étudiants. C'est quand même assez limité.
C'est très limité, effectivement.
Donc là, instaurer la possibilité de remplir une déclaration unique pour toutes les prestations sociales et familiales et automatiser au maximum les versements sous condition de ressources permettrait de lutter en soi. C'est pas cette simplification en soi, elle est pas idiote parce que ça permettrait de lutter contre les non-recours. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, que du fait de la fracture numérique et du fait de la longueur parfois ou de la complexité apparente de la mise en œuvre des demandes de prestations sociales, il y a de fait des ménages qui sont éligibles à certaines aides
et qui n'ont pas d'aide.
Et non.
Non,
qui ne les demande pas.
Et qui ne les demande pas, oui, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est à peu près 30 à 33% des personnes qui peuvent être éligibles. Donc c'est un coût au niveau de la réforme qui serait estimé à 8 milliards d'euros, mais ça serait une politique plus égalitaire. Alors, pourquoi ça? C'est très simple. Le taux de chômage est passé de 7,4% à 10,3% entre 2008 et 2014. Hein. Donc la proportion de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc autour de 1 000 euros par mois pour une personne seule, a augmenté d'un point. Et donc un point, c'est plusieurs centaines.
Énorme.
C'est énorme. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Parce qu'on donne des chiffres.
Je crois que c'était 900 euros le
voilà.
Seuil de pauvreté.
Donc c'est 1 000 euros du fait de l'inflation, tout ça.
D'accord.
Donc il y a 14,1% des actifs ou qui peuvent être actifs qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois.
D'accord.
Alors ça pose un ensemble de fonds et je vais ouvrir le débat parce que c'est une catastrophe sociale, notamment au niveau des 18-25 ans, on peut dire même des 18-30 ans. C'est-à-dire, entendre la définition de jeunesse selon le Bureau international du travail jusqu'à 30 ans. Hein. Il faut savoir qu'en France, on a 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire en moyenne chaque année sans qualification. on les appelle en langage, je sais plus, les nerfs ou les nids en langage technique. C'est, il y a eu des études par rapport à ça. La conséquence de ça, c'est que ils cumulent tous les freins à l'insertion du fait de leurs ressources très précaires et fluctuantes. Donc l'accès au permis.
Bien sûr.
On parle beaucoup de.
Le permis de conduire. Enfin, le permis de conduire, tu vois.
Permis de conduire. Oui. Ouais. On parle beaucoup de jeunes en milieu semi-rural ou de ruralité. Il faut savoir que là, il y a un enjeu sociétal majeur parce que c'est ces publics-là qui, d'après les dernières analyses sociologiques et au niveau de donc des intentions de vote, hein, qui se regroupent le plus vers les partis extrêmes.
Mais principalement le Front National, si je comprends bien.
Oui, on peut le dire.
Entre D'accord. Eux.
Et donc, enfin, déclaré extrême.
Déclaré extrême.
Voilà, indiqué, dit extrême. Donc, on en arrive à ces taux de paupérisation et de non-qualification, de non-insertion durable, à avoir des taux de par exemple, dans un petit village du côté de Gouvieux, hein, dans l'Oise, sur 141 habitants, vous n'avez pas de délinquance. Bon, bah, on va avoir plus de 60% des personnes qui vont voter au Front National. Donc, c'est une véritable désertification sociale et économique qui se met en œuvre, dont on parle peu ou pas. Ça touche pas que les couches ouvrières, contrairement à ce qu'on croit.
Non, c'est toutes les couches sociales, ça touche.
Ça, non, ça touche effectivement les couches ouvrières, mais les couches en agents, employés, mais aussi les fils de techniciens et de maîtrise. Moins les cadres, parce que du fait des revenus, etc., il y a un capital culturel et éducatif.
Il y a des cadres qui votent Front National aussi.
Ah oui, non, mais j'ai pas dit ça. Oui, mais je veux dire que du fait du capital sans
du capital
être
culturel,
pour,
etc.,
voilà pour Jeuzien du oui, capital sûr, éducatif et culturel c'est moins prend mais c'est un véritable enjeu de société, c'est-à-dire que cette précarisation de la vie étudiante et le fait que en gros ça s'explique par le fait que dans les années 70 on était au plein emploi, on avait au début des années 70 on n'avait pas de déficit public en France, hein. Ça commençait à partir du choc pétrolier. Et le fait qu'il y ait eu ces crises, on s'est rendu compte, au regard de la démocratisation des études universitaires et dites supérieures, donc de la notion de qualification, ça a donné effectivement une main-d'œuvre fortement qualifiée, hein, ce qui est un atout attractif au niveau mondial, dans une économie mondialisée, hein, puisque les ouvriers, les techniciens, les maîtrisés, les cadres français sont reconnus pour leur haute technicité et productivité du fait de leur maîtrise technologique et savoir-faire faire. Ça, c'est reconnu mondialement. Hein. On parle du Manin Allemagne, robustesse machin, mais la haute technicité du salariat français... dans le domaine de l'artisanat et également dans le domaine des métiers d'industrie est reconnu. Hein. Sauf que derrière, les moyens et la précarisation des salariés en rentrant sur ces secteurs et ayant eu le statut de la formation professionnelle ou le statut étudiant a été réel. Et ça, c'est un enjeu majeur dont on peine les conséquences aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair.
Oui, très, tout à fait, Christophe. Merci beaucoup. Donc, cette émission se termine à 27 à peu près. Donc, il nous reste quelques minutes quand même pour parler du dernier sujet. Claude, excuse-moi, mais voilà. Un sujet qui est important puisque on va revenir sur le programme des candidats puisque c'est là où c'est Macron pour le coup. C'est les risques du programme Macron sur l'UNEDIC chômage, sur le processus du chômage et de l'UNEDIC, Ludo.
Oui, alors on a beaucoup parlé en fait de la proposition de Macron de sortir les cotisations sociales simplement des entreprises en fait et de l'étendre à la fois aux ménages, retraités. Donc ce qui nous paraissait nous pas forcément une mauvaise idée, une mauvaise solution. Mais on a parlé un peu moins de son besoin de sanctionner les chômeurs. Peut-être pour faire plaisir à son électorat, donc c'est-à-dire de suspendre les allocations si le chômeur refuse deux emplois décents ou que la recherche d'emploi est insuffisante. Donc la grande théorie des libéraux, c'est qu'effectivement on s'enfonce dans le chômage si on est trop bien indemnisé et notre système d'indemnisation est trop généreux en France, comme bien entendu. Sauf que il y a un souci, c'est que les expérimentations aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ne sont pas concluantes. C'est-à-dire que le renforcement de ce contrôle a été testé sans succès. et les chômeurs n'ont pas retrouvé d'emploi plus rapidement. Donc dans le Maryland, par exemple, aux États-Unis, les chômeurs ont dû envoyer deux fois plus de candidatures, donc 4 au lieu de 2 par semaine, ou se soumettre à un contrôle accru quant à l'arrêté de ces candidatures. Le retour emploi n'a pas augmenté. Cette mesure n'est pas seulement inefficace, mais elle peut même avoir des effets négatifs. Donc par exemple, le Royaume-Uni, qui avait réformé son système d'assurance chômage au milieu des années 90, selon le nouveau régime, les chômeurs devaient signer un contrat où ils promettaient d'envoyer un certain nombre de candidatures et d'en tenir un journal détaillé. Ce journal est vérifié lors d'une interview tous les 15 jours. C'est un peu disciplinaire. Et ce n'est qu'une partie des démarches auxquelles sont soumis les chômeurs pour continuer à percevoir leurs allocations. Ça rigole pas du tout. Mais la recherche a montré que ce nouveau système a imposé un tel effort aux chômeurs qu'un certain nombre d'entre eux se sont découragés et ont complètement arrêté de chercher un emploi. Et certains sont passés aux allocations pour handicapés. Au final, le retour à l'emploi a diminué. Malgré des baisses apparentes.
C'est intéressant comme étude, ça.
Carrément. Oui, tout à fait. Mais sauf que là, c'est vraiment une étude détaillée secteur par secteur, donc enfin sur des zones géographiques limitées. De même, lorsque les sanctions poussent les gens à trouver un emploi plus vite, cela n'a pas forcément l'impact positif attendu. Donc ainsi, une expérience en Suisse, on parle pas assez de la Suisse, le pays du bonheur, montre que les sanctions poussent les gens à prendre des emplois qui sont bien moins payés et moins stables, si bien qu'ils se retrouvent plus souvent de nouveau au chômage. D'autre part, quand le taux de chômage est élevé, la compétition est féroce et elle pousse certains chômeurs à prendre un emploi en dessous de leurs compétences pour aller plus vite, et elle ne fait qu'ôter ces emplois à d'autres chômeurs moins qualifiés, dans le triste jeu de chaises musicales, bien entendu, ce qui fait que le taux de chômage reste le même, en fait. Et toutes les expériences du même type menées dans d'autres pays obtiennent des résultats négatifs. Les effets pervers peuvent être très étendus, comme une diminution de la qualité de l'emploi, voire un retrait total du marché du travail parmi les chômeurs découragés. Donc c'est le cas des États-Unis, en fait, hein, puisque la population, le taux d'activité baisse, en fait, hein, que les gens se retirent du marché du travail et ne se considèrent plus comme recherchant un emploi. Il serait donc utile de mener d'abord une expérience pilote en France, conclut gentiment l'article, afin de quantifier les effets pervers potentiels liés au renforcement des sanctions proposées par Emmanuel Macron.
Eh bien, bravo, bien libéral, mais c'est sympa quand même. Bon, voilà. Alors, quelques mots peut-être pour terminer sur, si tu peux en dire quelques mots, sur éventuellement, est-ce que les seniors sont bien formés en France, Christophe? Juste quelques précisions sur ça, puis on en reparle.
Alors, c'est le grand mythe libéral, la flexibilité, l'action formative et la solution à l'emploi pérenne. Sauf que voilà, devinez quoi, les cadres seniors sont des oubliés de la formation. Ils sont d'abord recrutés pour leur expérience. Les seniors bénéficient rarement, en fait, des plans de formation, y compris lorsqu'ils changent de poste, révèle une étude de l'APEC, qui est donc l'association pour l'emploi des cadres. Les employeurs sont pourtant très exigeants avec ces profils d'experts. Et ben, plouf, 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 dans la marmite à formation, ça n'aboutit strictement à rien. Les différentes sessions prévues pour de parcours d'intégration, présentation de l'entreprise, initiation à le logiciel, etc., à destination des cadres est rarement envisagée. C'est ce que révèle une récente étude de l'APEC. Les cadres interrogés, donc on n'a pas affaire en général à des imbéciles, hein, déplorent amèrement cette lacune qui paradoxalement s'explique par leur brio, c'est-à-dire que les postes occupés par les cadres seniors sont généralement proches de leur dernier emploi. Dans la moitié des cas, la mutation s'effectue chez un concurrent direct de l'ex-employeur, décroché grâce au réseau. D'emblée opérationnel, ne nécessitant ni formation ni surveillance, le senior minimise le risque d'échec et augmente les chances de réussite de l'équipe. D'ailleurs, témoigne un employeur. Prestataire de services de santé, ce chef d'entreprise a recruté un senior pour gérer le lancement d'un nouveau produit pharmaceutique et développer son entreprise. Intuitivement, les recruteurs associent l'âge avec la connaissance et savoir, ce qui ne joue pas en faveur de la mise en place de formation. Donc, c'est une représentation culturelle, hein. Une image d'Épinal qui agace certains cadres. Pour mon PDG, la transition de commercial dans une grande banque à commercial dans un réseau spécialisé allait se faire naturellement grâce à l'embruitage sur le tas. C'est donc ce que relate et témoigne un cadre qui estime qu'il aurait pu, pour cette nouvelle mission, tout simplement louper le coche du fait de son manque de formation pour s'adapter aux nouveaux produits et aux spécificités de l'entreprise dans laquelle il était présent. Donc c'est une véritable lacune que révèle l'APEC, hein, surtout qu'on nous en fait des gorges de feu, des notions de formation. puisque le besoin en formation est pourtant dommageable, car dans quelques cas, la greffe ne prend pas. Un quinquagénaire, c'est un autre exemple, est censé être opérationnel dans les 15 jours, doté de capacités innées, alors que la méconnaissance de l'environnement économique et financier est pardonnée à un jeune, déplore cet autre cadre qui éprouve des difficultés dans sa reconversion professionnelle. Je vais conclure. Hein.
Oui.
L'étude de l'APEC démontre enfin que la politique de gestion des âges n'intervient pas dans les logiques de recrutement. La plupart des employeurs interrogés méconnaissent le contenu des plans ou accords en faveur de l'emploi des seniors. C'est, autrement dit, on a des sous. Pour ça, on les utilise pas, n'intervenant pas dans la définition de leur stratégie de gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que c'est quand même un problème de fond. On a des DRH qui sont formés, etc. Ils n'utilisent pas ces moyens. Donc, c'est une véritable problématique à résoudre un jour.
Merci à tous les deux. En tout cas, cette émission se termine. Merci à tous les deux d'avoir fait cette émission avec moi. Vous avez été excellents comme d'habitude. Je remercie tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Je vous demande évidemment de rester vigilants et de ne rien lâcher, hein, évidemment, parce que les solutions que nous proposent nos candidats vont aller vers le pire ou le pire. Donc votez bien pour le coup si vous ne votez pas. Voilà, gros bisous aux filles et poignées de longs garçons.
Faites votre devoir républicain. Bonsoir.